Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Nicolas Lévesque. Nicolas a écrit dans la collection Nouveau Essai Spiral un livre qui s'intitule Le deuil impossible nécessaire, essai sur la perte, la trace et la culture. Et à partir d'une réflexion qu'on va élaborer sur le livre, on va arriver au rêve, on va parler au rêve, on va parler au rêve et des rêves. Et en fait, j'ai envie de te demander tout de suite, Nicolas, c'est pourquoi le deuil? Pourquoi as-tu commencé ta carrière d'une certaine façon ou par travailler, faire ta thèse sur le deuil et puis publier? Devenir un personnage un peu plus public, même si on sait bien que les livres ne nous rendent guère public, mais sur le deuil, qu'est-ce qui dans le deuil t'intéressait ou intéresse notre contemporanéité?
Il y a plusieurs dimensions à ça. Il y a une dimension personnelle, inconsciente, largement, là, qui m'était d'ailleurs pas tout à fait, qui n'était pas tout à fait consciente quand j'ai choisi de travailler sur le deuil. Il y a de cela, au fond, pour mon doctorat, là, ça fait un petit bout déjà. Puis, les raisons officielles, là, on va commencer par ça. Les raisons qui sont des raisons théoriques, au fond, je me demandais. J'étais rendu là dans la théorie, les auteurs que j'aimais beaucoup, comme Pontalis, comme Derrida aussi, avaient dans leurs œuvres, je trouvais que le deuil, c'était peut-être le carrefour, ou en tout cas la porte d'entrée principale pour ces œuvres-là. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, en tout cas chez ces auteurs-là. Puis aussi, je trouvais qu'intellectuellement, on était rendu là à faire le deuil de plein de choses, plus qu'à avancer ou à progresser. Donc tout ce rapport à la limite, ça m'intéressait beaucoup. Et aussi parce que je trouvais que le texte Deuil et mélancolie de Freud était un texte sur lequel j'avais envie de travailler parce que je le trouvais, comment je dirais, un peu surévalué dans le sens où il y a eu tout un succès et puis je trouvais que c'était pas à la hauteur du reste de son œuvre, puis ça me dérangeait. Puis donc ça, puis à un niveau plus personnel, moi-même, je pense que j'étais en deuil de pas mal de choses, entre autres en deuil de ce que c'est l'université, de ce que c'est faire un doctorat, de ce que c'est devenir psychologue, de ce que c'est devenir adulte aussi, au fond, c'était à cette époque-là. Puis ma copine était en deuil de son père. Puis bon, le deuil a toujours fait partie de mon histoire familiale aussi, là. Donc, pour toutes ces raisons.
Mais en fin de compte, tu fais surgir comme quelque chose qui est le négatif de la culture ou le négatif même freudien, tu me dis que Freud, finalement, son texte serait peut-être, pas le meilleur de Freud, hein, le texte de Deuil et Mélancolie, et tu fais surgir dans ton texte quelque chose de l'impensé freudien, mais aussi peut-être du ratage freudien, hein, disons le ratage. Et ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu dis aussi comment le deuil menace la culture, et là tu fais référence à Nicole Leroux. Peut-être j'aimerais que tu t'exprimes un peu davantage sur cette menace de la culture par le deuil.
Oui, il y a deux questions. Je vais commencer par la première, là. Pourquoi c'est un ratage freudien, le deuil? Peut-être parce que je pense que c'est le texte où Freud est le plus du côté de l'économie, je dirais, là, parce que le deuil, c'est aussi tout le rapport au substitut. Donc, si on est trop dans le substitut, on est un peu dans la manie de remplacer tout le temps l'objet perdu. Puis, si on est pas assez dans le substitut ou trop dans l'impossible, on est trop dans la mélancolie. Mais ce deuil, ce texte-là est clairement trop du côté du Freud, de l'économie libidinale, de la métapsychologie, de toute la mécanique psychique. Mais c'est pas le Freud qui par ailleurs, ailleurs dans son œuvre, parle de toute la singularité, de tout ce qui est irremplaçable. Et puis, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un peu ce que je voulais ramener, puis entre autres en parlant du rêve, là. Mais ton autre question qui est liée à ça, c'est pourquoi le deuil est un danger public.
Oui,
C'est ce que je dis dans mon livre. De la même manière que le rêve est un danger public aussi, puis que tout ce qu'on appelle la santé mentale, et les symptômes sont toujours un danger public. C'est pour ça qu'on réagit avec force et qu'on a toujours réagi avec grande violence à ça, à la folie en général. Entre autres parce que, puis ça c'est pas si simple, mais l'idée c'est que l'endeuillé est très vulnérable, c'est-à-dire que c'est là que se fait le passage entre une espèce de socialisation si on veut, c'est-à-dire que c'est là que la culture vient proposer J'appelais ça peut-être des prêt-à-porter, des deuils prêt-à-porter, c'est-à-dire que on se détache d'un objet d'investissement, si on veut, puis là, on sait pas où mettre, à quel saint se vouer, comme on dit. Et là, répond la culture en nous proposant plein de trucs. Puis c'est pour ça que, par exemple, dans les tragédies grecques, c'est très intéressant de voir tous ceux qui résistent au deuil, puis à la substitution, sont enfermés ou sont menacés de mort ou sont exclus de la communauté ou de la cité. Et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui gardent leur deuil, par exemple, trop longtemps, sont considérés, bon, évidemment, pathologiques. Et ensuite de ça vient toute une espèce de système de force, c'est-à-dire bon, par les médicaments, ensuite par l'enfermement. Et donc, on va le finir à ta place, ton deuil, parce que c'est dangereux. Parce qu'on remet en question la société même quand on remet en question la substitution. Parce qu'au fond, pour être social, il faut substituer. Tous nos trucs, c'est-à-dire, bon, entre autres avant, c'était peut-être plus, il fallait pas aimer quelqu'un de nos proches plus que Dieu, ou est-ce que ça remettait ça en question? Et puis, bon, je parle dans mon livre de la guerre, c'est-à-dire que si on pleure trop, quelqu'un qui est parti à la guerre, on remet en question la guerre elle-même. Donc, il faut substituer la patrie à la personne qu'on aimait, puis quand on résiste à ça, ben, c'est dangereux.
Tu parles beaucoup du temps du deuil, et puis ce que tu privilégies, c'est de penser une fin qui n'a pas de fin, alors que tu as l'impression, en fait, tu as l'impression que nous sommes dans un temps qui veut que le deuil finisse, que le deuil s'arrête, alors que toi, tu essaies de penser à une temporalité qui est haute, qui serait peut-être aussi à cause de ton expérience de, je ne sais pas comment la nommer, je veux dire psychologue, psychanalyste, je ne vais pas nommer pour toi ton travail, mais enfin de celui qui écoute, de
Ouais,
celui qui
c'est
sait
bien.
écouter. J'ai l'impression que tu sais que le temps n'est pas le temps de. Faut pas viser la fin. Hein?
Ouais.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de ça et que dans ton texte, il y a vraiment un travail sur temps et deuil très important.
Ouais.
Hein? Et qui là rejoint aussi les préoccupations sur la culture.
Tout à fait. Ben oui, tu as tout à fait raison. Puis je dirais que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que d'une part, on peut appeler ça, disons, le côté maniaque puis le côté mélancolique, c'est-à-dire que le côté maniaque qui représente bien l'époque dans laquelle on vit, et dans laquelle on vit, puis et de l'ordre de la fin, de tout doit être nouveau, de tout doit être remplacé très vite, et donc tout doit finir vite aussi, hein, rien ne doit s'allonger. Mais j'ajouterais quand même l'autre côté qui me préoccupe plus qu'avant, c'est-à-dire le côté mélancolique aussi, qui est très fort chez les intellectuel aussi,
C'est
c'est-à-dire
vrai.
tout un discours de l'infini aussi,
Oui,
du
c'est vrai.
sans fin, du mélancolique, et des choses donc de refuser aussi tout remplacement. Et ce qui est aussi un peu le rôle, dans le fond, de la scène artistique et intellectuelle, de rappeler qu'il ne faut pas toujours tout substituer. Et donc, résister à toute l'idée de la marchandise, puis tout ça. Mais je pense que ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est qu'il faut un mélange des deux, c'est-à-dire tout est à la fois fini et infini, c'est-à-dire qu'il faut à la fois passer à d'autres choses, parce que c'est vrai, et en même temps, il faut pas. Il faut
Oui, mais
toujours.
j'aime beaucoup ce que tu dis là sur l'idée de la mélancolie des intellectuels qui sont pris dans ce négatif à
Ouais.
l'infini. Alors que je pense que c'est vrai, et puis ça, c'est peut-être ta pratique de clinicien qui te dit qu'il faut quand même être capable de passer parfois à autre chose pour que la vie puisse continuer, même
C'est
si on
ça.
sait que c'est impossible, mais c'est nécessaire. Hein,
Oui,
c'est ce que tu
c'est
dis.
ça.
Et ça, je trouve que tu as tout à fait raison de pointer cette espèce de fétichisation
Voilà.
mélancolique chez.
Tout à fait.
Ouais, ça, je pense que tu as tout à fait raison. Mais souvent, on s'y réfugie parce que c'est comme tellement un contrepoids à la
Oui.
société. Mais je pense que c'est peut-être il faut
Qui
être
fait
ailleurs.
fonctionner malheureusement la société, parce que
Oui.
c'est peut-être le même système, au fond,
Tu as
la
raison.
manie entretient la
Oui,
mélancolie, la
oui.
mélancolie entretient la manie, puis là, peut-être qu'en résistant ou en manifestant notre mélancolie, finalement, on ne fait que participer à la même, je dirais, à l'envers de la médaille.
Oui.
Puis c'est peut-être que la plus grande résistance, elle serait dans une position justement ailleurs qu'entre ces deux oppositions-là,
Oui,
finalement.
tout à fait.
Puis c'est ça aussi le deuil, c'est-à-dire qu'il faut, la personne qui est plus là, par exemple, ou ce qu'on a renoncé, doit participer ensuite à tout ce qu'on fait, elle doit être le petit fantôme qui est partout, et pas seulement dans son petit cachot qu'on lui a gardé. Donc, je vois le deuil aussi comme ça.
Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ton texte, c'est le rapport que tu as à la fois théorique et très pratique à la psychanalyse. C'est-à-dire que ton texte parle de Freud et commence sur le fait que tu commences, et là je vais te citer, je crois que tu... Pourquoi le cacher, ce livre est l'œuvre de mon deuil de Freud. Hein, tu, donc il y a un rapport théorique à Freud qui est dans ton texte, que tu mets en scène. Mais aussi... je pense que tu parles beaucoup de tes patients. Dans le texte, il y a tout un rapport à... Il y a des récits, il y a des fragments, il y a des anecdotes, il y a du jeu, où tu racontes comment, je te cite, pourquoi faire de l'écoute du secret d'autrui un métier, serait-ce pour réveiller les fantômes qui nous habitent tous. Hein? Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout un travail... sur quelque chose de très pratique. Et j'aimerais que tu lises, alors là, un petit extrait très, très intéressant que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que, en général, les psychanalystes ou les psychologues s'impliquent peu. Et là, tu vas montrer comment ton livre est fait de la matière même des mots de tes patients, des mots M-I-U-X, M-O-T-S. J'aime beaucoup ce passage.
Ben, merci. Moi aussi, je l'aime bien. Donc, je vais en lire un petit bout. Pas une ligne ne s'est ici écrite sans que veille constamment dans mes pensées et dans ma mémoire chacun de mes patients. Pas une ligne ne s'est écrite sans eux. Pas une ligne qui ne souhaite aider au sens large, insaisissable de ce mot. Écrire, d'une certaine manière, c'est toujours donner. Je me suis tenu, de ce point de vue, au plus près de la pratique, tout en marquant volontairement mes distances par rapport à la conception empiriste qu'on peut en avoir. Comme nous invite à le penser Pontalis dans Fenêtre, la clinique n'est pas un lieu d'application où viendraient trouver confirmation les hypothèses ou les théories de l'analyste, car elle ne constitue pas un objet de preuve, mais elle est la source même de la pensée psychanalytique. Chaque fois, l'expérience clinique la saisit d'effroi et d'émerveillement et fait vaciller, du coup, toute théorie constituée.
Alors, est-ce que j'aimerais bien que tu me parles de ce rapport, justement, à tes patients, de ce rapport... Je te disais avant l'entrevue que tu portes quelque chose de tes patients et que j'ai l'impression que tu le revendiquerais comme une éthique de la psychanalyse que tu pratiques. C'est-à-dire, tu penses que le psy doit porter quelque chose de ses patients. Alors, j'aimerais que tu m'expliques ça parce qu'en général, on est toujours en train de parler de contre-transfert et puis on entend le mot « contre ». Plutôt que autre chose que transfert. Donc, j'aimerais t'entendre parler là-dessus.
Ouais. Ben, Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le mot « contre » est problématique. Hein. Je pense qu'il y a un transfert de l'analyste et un transfert du patient. Puis, je vois pas pourquoi un serait plus contre que l'autre. Donc, les deux. Tout d'abord, mais oui, c'est certainement une des dimensions de mon livre qui m'intéresse le plus. C'est comment, c'est pas seulement un livre théorique, c'est aussi... puis comment c'est ma conception du deuil aussi qu'il voit comme ça, c'est-à-dire que souvent la théorie va être le substitut justement des patients qu'on perd, ou en tout cas qu'on on est toujours en deuil de ces rencontres-là, et ça devient assez violent quand la théorie remplace au complet finalement toute la singularité de la chose. Donc il faut, pratique théorie, ça ressemble beaucoup à infini fini, à mélancolie manie, donc il y a une espèce de rapport là qui se ressemble beaucoup. Puis moi je le vis comme ça, c'est-à-dire que oui, je porte beaucoup, c'est une éthique, t'as raison. En même temps, pour moi c'est un peu une fête là, de porter ça, parce que c'est justement pas pour l'enfermer dans un coffre, parce que bon, le coffre il serait plein, puis ça ferait longtemps qu'il aurait craqué. Et donc je m'en sers beaucoup pour comme tous ces petits fantômes-là qui habitent ma vie. Moi, mes patients, je les vois vraiment comme... quand je suis capable, là, parce qu'il y a quand même un travail psychique qui n'est pas toujours évident, mais comme quelque chose qui nourrit complètement ma vie dans tous les détails. Et puis, je me laisse hanter, si tu veux, par ça. Puis, je pense que tant qu'on a peur de cette hantise-là, ça va pas bien. On reste pris. Et donc, on est, en fait, 10 fois plus hanté, là, d'une certaine façon. Mais moi, j'aime bien l'idée que ça m'habite... constamment, mais que ça enrichit tout ce que je fais. Donc je les laisse, c'est la seule façon que je peux vivre avec ça, je les laisse un peu contaminer beaucoup de choses que je vis. Ça m'arrive beaucoup de penser, je dirais, à mes patients pour plein de détails de la vie quotidienne, et puis je m'empêche pas de le faire, parce que c'est quand je m'empêche de le faire que c'est pire, que ça devient lourd, finalement. Donc c'est un peu le même procédé. Puis j'imagine que quand j'écris, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est là que je les transforme, ils sont là, puis Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un peu bête la pratique aussi des études de cas où on va directement adresser ça, ce qu'on a vécu. Ben c'est bien, c'est intéressant. Moi-même, je le fais des fois, là, mais c'est encore plus intéressant, je trouve, quand on les transforme. C'est-à-dire que... Sauf que c'est un peu ingrat. C'est-à-dire que les patients ne savent pas qu'ils nous aident à ce point-là.
Oui.
Et ils ne savent pas qu'ils sont partout dans notre vie, puis partout dans mon écriture. Mais c'est cette transformation-là qui ressemble beaucoup au rêve aussi. C'est-à-dire que...
Alors, aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Nicolas Lévesque. Nicolas a écrit dans la collection Nouveau Essai Spiral un livre qui s'intitule « Le deuil impossible nécessaire ». Essai sur la perte, la trace et la culture. Et à partir d'une réflexion qu'on va élaborer sur le livre, on va arriver au rêve, on va parler au rêve, on va parler au rêve et des rêves. Et en fait, j'ai envie de te demander tout de suite, Nicolas, c'est pourquoi le deuil? Pourquoi as-tu commencé ta carrière, d'une certaine façon, faire ta thèse sur le deuil et puis publier... devenir un personnage un peu plus public, même si on sait bien que les livres ne nous rendent guère publics, mais sur le deuil. Qu'est-ce qui, dans le deuil, t'intéressait ou intéresse notre contemporanéité?
Il y a plusieurs dimensions à ça. Il y a une dimension personnelle, inconsciente, largement, là, qui m'était d'ailleurs pas tout à fait... qui n'était pas tout à fait consciente quand j'ai choisi de travailler sur le deuil il y a de cela... Au fond, pour mon doctorat, là, ça fait un petit bout déjà. Puis, les raisons officielles, là, on va commencer par ça. Les raisons qui sont des raisons théoriques, au fond, je me demandais... j'étais rendu là dans la théorie. Les auteurs que j'aimais beaucoup, comme Pontalis, comme Derrida aussi, avaient dans leurs œuvres... Je trouvais que le deuil, c'était peut-être le carrefour, ou en tout cas la porte d'entrée principale pour ces œuvres-là. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, en tout cas chez ces auteurs-là. Puis aussi, je trouvais qu'intellectuellement, on était rendu là à faire le deuil de plein de choses, plus qu'à avancer, à progresser. donc tout ce rapport à la limite, ça m'intéressait beaucoup. Et aussi parce que je trouvais que le texte « Deuil et mélancolie » de Freud était un texte sur lequel j'avais envie de travailler parce que je le trouvais, un peu surréaliste.